Mélodie de mots chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie de mots chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu.
Jules Jéquin, merci de nous recevoir pour parler de cinéma au milieu de tes nombreuses vies de sculpteur, d'artiste, de photographe, de sportif. Mais là, nous n'allons parler que de cinéma des 7-8 films que tu as réalisés entre 1974 et 1985 à peu près. La première question que je voulais te poser, c'est, Jules Jéquin était quand même très cinéphile quand il était jeune.
Plus que ça, parce que j'ai eu la chance de faire mon service militaire avec des gens formidables, qui sont mes frères de cœur et de guerre, Labro, Vario, Weber, Jacques Segala. Et qu'à l'époque, on avait des Solex, et on partait le samedi voir 4 films, le dimanche 4 films, c'est-à-dire qu'un allait chercher les sandwichs, pour l'autre allait acheter les places. On s'est fait une cinémathèque visuelle, entre Cukor, Minelli, les Lubitsch, tous ces grands films qui pour moi, ce sont les chefs-d'œuvre que jamais on ne retrouve aujourd'hui de scénario. Et je suis extrêmement triste aujourd'hui, c'est que les jeunes ne veulent pas de films en noir et blanc. Mmh. Ils refusent le noir et blanc, que pour moi, c'est somptueux. Quoi. Mmh. Donc ça, en effet, j'étais très cinéphile. C'était...
Est-ce que ça a une influence sur les films que tu vas réaliser après, la cinéphilie, le noir et blanc? Par exemple, Gwendoline, à mon sens, est un film, bien sûr en couleur, mais qui est un film en noir et blanc avec de temps à autre des pointes de rouge ou de couleur quand même.
Exactement, je suis en couleur primaire. C'est-à-dire que mes sculptures sont toujours rouge, jaune, bleu. J'aime les choses sur du blanc. Aux Arts Déco, on t'apprend que pour que le rouge soit beau, il faut que ce soit un blanc. Tous ces petits trucs qui viennent des Arts Déco, qui viennent de mes dessins, c'est que je suis un visuel et un graphique. On m'a reproché que aussi bien mes photos que tous mes films étaient un peu des photos de mode. Les critiques disaient les films de Jéquin, c'est du cinématographique.
Parce qu'à l'époque, tu étais un photographe de mode très connu, au moment où tu deviens réalisateur de cinéma.
J'ai été, sans aucune prétention, j'espère, supposé être un très grand photographe. J'avais la chance formidable que les grandes vedettes me voulaient. Pourquoi? Parce que le départ de ma carrière a été que j'ai lancé un journal, parce que j'étais directeur artistique avant, avec Claude Verdriel. Et le premier numéro, on a reçu des photos de Jane Fonda, de Paparazzi, où on la voyait nue, on voyait son sexe, on voyait tout. Et Claude Pedriel, qui est un gentleman, appelle Vadim en disant, écoutez, j'ai une photo de Jane qui n'est pas terrible. Qu'est-ce que je fais? Vadim, qui comprenait très bien les problèmes, il dit, écoute, prends un photographe du choix de Jane qui va te faire des photos. Et Jane Fonda, que j'avais connue pour elle sur un film qui s'appelle Belfast in the Park, j'avais fait rigoler parce que je suis un clown quelque part. My name is just joking. Et elle a dit, je veux ce photographe-là. Et c'est moi qui me suis retrouvé sur le plage à Saint-Tropez faire la première photo d'une grande vedette américaine nue. Cette fameuse photo de Jane croisée sur la plage. Cette photo a fait tellement de scandale au monde, la première grande vedette nue. Mmh. Alors Bardot m'a demandé, Vogue m'a demandé de faire... Et tout est devenu que quand Pierre Driel a commencé son journal, il est tombé amoureux de Marie Laforêt. Et moi aussi, je suis tombé amoureux de Laforêt. C'est-à-dire qu'on a fait des photos formidables, et on fait une photo, on le prise, et subitement, elle va vers le... pour se recoiffer. J'ouvre l'appareil, j'ai oublié de mettre de la pellicule. Je tremblais comme ça, je n'osais pas la lui dire. Je vais la voir, Marie a un problème, j'ai fait une connerie. Aucun problème. Elle revient sur le plateau, on recommence les photos. Il a tous les panneaux blancs de lumière tombent sur elle. Elle se retrouve au fond des panneaux blancs. Et j'entends le plus vieux qui fait « Tu veux me tuer ? Est-ce que c'est mon mari qui va te payer pour ça ?» On est venus les meilleurs amis du monde. Donc tout ça, bon, et après il y a eu les Américaines, j'ai eu... Bon. Et c'était ma réputation. Donc le jour où Rousserrois a soi-disant demandé à Hamilton, qui refusait de faire les films, il s'est retourné quelqu'un qui savait photographier les femmes. Donc il est venu vers moi. Voilà.
Et est-ce que tu es d'accord avec la définition que donnait Philippe Labreau, qui te décrivait dans un de ses livres, en parlant de toi, en disant « jeune photographe inconscient, naïf et complètement déconnecté de la réalité ».
C'est moi, aujourd'hui. Comment, quand vous gagnez, quand vous êtes un grand photographe, que vous gagnez une somme colossale chaque année, que vous avez vos studios, vos assistants, tout, vous acceptez de partir en Thaïlande pour gagner 3 centimes sur un film que personne ne croyait, sans un rond. Mais il faut être dingue. Tomber sur un long métrage, faire un long métrage, un coup de poing à figure. J'étais inconscient, naïf, oui, dans le sens. Je reste naïf et je veux rester. Labreau disait des choses très jolies, nous sommes restés des enfants.
Mais faire son premier long métrage à 34 ans, c'est
33,
à la. 33 ans.
L'Arche du Christ. C'était l'âge où mon père est mort. C'est marrant, hein. Ouais. Ouais.
C'était un petit peu tard ou un petit peu tôt pour faire un long métrage, passer au long métrage? Est-ce que tu avais hésité à franchir le pas, passer de la photo?
Inconscient. J'avais fait des très bons films publicitaires. C'est moi qui faisais mes lumières. C'est moi qui ai formé Suzuki. J'aimais la lumière, j'aimais les cadrages. Donc en fait, il fallait ramener du mouvement et la parole. Mm-hmm. Et là-dessus, je...
Parce que le photographe, à ce moment-là que tu es, découvre qu'il y a quelque chose qui s'appelle le scénario. Est-ce que, à partir d'Emmanuel, tu commences à te plonger tout de suite dans les scénarios, le découpage, dans l'objet même filmique?
Écoute, Emmanuel, c'était pour moi quelque chose de... un trou noir, la trouille. Que tu te trouves dans un pays où tu es parti avec la caméra sous le bras parce que tu n'as pas la permission de tourner, on part à 4 ou 5 personnes, c'est pas 300 personnes, qu'on a une équipe thaïlandaise avec un prince qui est soi-disant, on va nous donner du matériel, que le matériel arrive, c'est le matériel d'avant-guerre. Ça a été l'horreur, tu te retrouves dans tout ce qui est contre toi.
Emmanuel a été tourné à Bangkok sans autorisation?
Oui, et d'ailleurs... On a tourné dans un endroit qui était qu'on ne savait pas interdit parce que c'était un monastère. Les flics sont arrivés. Heureusement, Richard Suzuki, comme j'avais tourné avec ma propre Comeflex, qui était une caméra pour expliquer un petit peu, on retire le magasin, on en remet un autre. Ils ont pris donc le magasin qui était sur la caméra et l'ont envoyé à développer. Et moi, pour cela, j'étais en tôle.
Comment ça, en tôle?
Ils m'ont mis en tôle.
Bon.
On a été dans un endroit sacré, sans permission. On avait dit qu'on venait tourner un film sur les fleurs, tu vois, c'est pas la même chose. Et ça a commencé du matin jusqu'au soir. What is your name? Spell it. G-U-S-T, G-A-U-C-K-I-N. Again, toute la journée. Pour me faire créer. La trouille noire. Et quand, enfin, le résultat des pellicules qui étaient développées où il n'y avait rien dessus. Ils n'ont rien pu prouver. On est parti. Et comme dans la scène où les otages sortent d'Iran, j'étais dans l'avion et je regardais par le hublot s'il n'y avait pas une voiture.
Comme dans Argo.
Comme dans l'Argo. Si une voiture n'allait pas arriver nous piquer, on est parti. Mais c'était très, très, très dur.
Et tu y es retourné depuis?
Jamais. Non. D'ailleurs, j'ai été interdit pendant des années.
J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'ai déjà dit 1000 fois à une seule personne, à mon mari. Oui, je crois que j'aime Jean aussi fort qu'on peut. Oui, je le croyais. Il m'a toujours dit que l'amour, c'était la recherche du plaisir, toujours plus loin, avec un homme ou une femme qu'on a choisi. C'est drôle. Maintenant, je sens qu'il y a autre chose. Tiens, quand j'ai vu cette cascade, j'ai pensé comme c'est beau. Eh bien, je l'ai pensé pour toi. Je te l'ai dit à toi. Une cascade, ce n'est beau que si on peut le dire à celui qu'on aime.
Écoute, petite fille, je t'aime bien. Et quand je dis que je t'aime bien, ça veut dire que je ne te veux aucun mal. Mais ça veut dire aussi que je ne t'aime pas. Tu comprends? Ce n'est pas grave.
C'est des histoires qui vous arrivent en pleine gueule. Vous régissez ma force, en fait, ma grande force, qui est un seul mot. C'est chaque problème m'amène une solution. Ça vient d'une grande phrase de Sid Snick. Il envoie un jeune metteur en scène faire un film, un western, et il appelle 8 jours après. Alors qu'est-ce que tu as tourné? Ah non, j'ai rien tourné. Comment dit-il? Oui, monsieur Sesnick, il y a eu une tempête. Vous êtes viré. Mais monsieur Sesnick, c'est pas de ma faute qu'il y ait une tempête. Si, vous n'en avez pas profité. Et ça a été la base, cette phrase que je répète aux jeunes. Si vous pensez que pour faire une photo, vous aurez toujours une fille belle, avec une robe belle et un rayon de soleil, vous arrivez à faire des photos avec une fille qui a des boutons, il faut faire la photo. C'est la même chose au cinéma. Une scène, tu lis une scène. Elle est drôle, tu te marres. Elle va être géniale. Puis une scène, tu la sens pas très bien. Au tournage, la scène, tu la sens pas très bien, elle est géniale. Et la scène drôle, elle ne fonctionne pas. Tout de suite, trouver, bouger.
Parce que, alors ça m'amène à une question. Tu avais écrit à un moment sur Emmanuel en disant que tu regrettais certains jours de ne pas avoir d'inspiration.
Et c'est obligatoire.
Et j'ai l'impression qu'il y a deux catégories de films chez Juste Jacquin. D'une part, ceux qui ont été faits, j'allais dire, à la mise en scène, sur le plateau, Emmanuel, Madame
Peu,
à l'arraché, et ceux, à l'inverse, qui ont été très préparés. Ce qui ne veut pas dire que les uns soient meilleurs que les autres.
Non.
Mais par exemple, Histoire d'eau est un film très travaillé.
Ah oui, c'est
très préparé.
Plan,
Gwendoline,
plan.
Pareil.
Gwendoline, étonné que j'étais le co-auteur avec Wulfaux, j'étais plus proche. Je savais que la liberté de changer des phrases, liberté d'endroit, d'improviser par rapport aux endroits qu'on trouvait, c'est plus facile. Suivre, et ce que je disais tout à l'heure, suivre un scénario avec des dialogues précis et tout, c'est très difficile. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais?
Et Emmanuel s'était fait à l'arrache, alors.
À l'arrache. Et je répète, en hommage à mes techniciens, Robert Fraisse et Suzuki m'ont beaucoup aidé. On peut même dire que Suzuki, à part la scène qu'il a tournée contre mon gré, m'a beaucoup aidé pour m'expliquer qu'on ne met pas un gros plan sur un gros plan, qu'il faut ceci. J'ai appris mon métier en même temps qu'Emmanuel. Si on peut dire qu'Emmanuel, Emmanuel, c'est d'avoir trouvé Sylvia, d'avoir amené ma visualité, parce que c'est un film visuel, Emmanuel, et d'avoir eu la chance fantastique, après avoir refusé de faire le film, d'avoir un monsieur qui m'a convaincu de le faire, qui m'a dit je vais te faire des dialogues extraordinaires, Jean-Louis Richard,
qui était
Marie-Jeanne Marot, et scénariste de Truffaut. Et qui m'a fait des scénarios que je peux même dire aujourd'hui que je ne comprenais pas à l'époque. Qui avait 20 ans d'avance. Pourquoi Emmanuel reste d'actualité? C'est cette liberté d'une femme, c'est quoi? C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Mais ça te parlait à l'époque quand même,
c'était un sujet. Oui. Des subtilités dans ce qu'il avait donné, c'est lui qui les a amenées.
Et entre le scénario que Jean-Louis Richard t'a amené et le résultat final, tu as apporté des choses également sur le scénario où c'était...
Non, le scénario était très très précis au point de vue action et dialogue. Mais moi, j'avais une liberté totale parce que les décors, on les trouvait sur place. C'était un reportage cinéma pour moi, un reportage pour moi, parce que j'apprenais beaucoup de choses. Et je répète, je dois beaucoup à mon équipe sur ce film, ce qui n'était pas le cas les autres où j'étais...
Robert Frest a beaucoup apporté. Enfin, c'est un photographe, un directeur de la photo qui te suit sur la quasi-totalité
Sauf
des films.
Sauf que Don Manuel, il était caméraman. C'était Richard qui était chef opérateur.
D'accord.
Et Robert Frest, c'est un frère, quoi. C'est, ce que j'explique aux gens, ce que c'est un frère, c'est... sur un plateau, je dis pas, tu mets le truc là. On fait... Tout est par œil, par geste. Et la chose qui m'a le plus fasciné dans le cinéma, en général, c'est que... Je raconte une anecdote qui va l'expliquer. On arrive, pour les déchets Turlet, dans ce magnifique château... les grandes costumières, il y avait une grande équipe fabuleuse, j'avais tout ce qu'il fallait. Les petits, les Anglais, la tâche de thé le matin, qu'est-ce que c'est ces petits Frenchies qui viennent nous chercher chez nous? Ils sortaient du film de Spielberg.
Oui, qui, Indiana Jones qui était tourné au même moment, oui.
Et Ken Russell, madame l'assiste, venait de finir le dernier film de Ken Russell, qui est un chef-d'œuvre. Ils nous regardaient, Robert et moi, comme deux petits... Et on arrive sur le plateau, bonjour, on dit caméra là, etc., travelling là, plan suivant, là-bas, ça, lumière là, tour de lumière là, pop, ils étaient avec nous. C'est ce mystère magnifique, comme en musique, quand tu as des musiciens qui viennent du monde entier, qui ne parlent pas un mot de français, ils font 1, 2, 3, et ça part. J'ai connu cette magie-là.
Mais quand même, comme pour Robert Frest, ce ne doit pas être simple d'être, ou Suzuki, d'être directeur de la photo de quelqu'un qui est photographe, connu et expérimenté quand même.
Oui, mais le jour où tu parles le même langage, on disait 1, 2, 3, c'est fini.
J'ai pas le sentiment que la photo de tes 8 films soit identique. À chaque fois, c'est des choix vraiment
oui,
différents.
Il y a des choix
ce qui est un truisme, mais...
Par rapport à l'histoire. D'abord... Sur Emmanuel, c'était un documentaire sur la Thaïlande, donc je profitais de la lumière, des soleils, logique. J'ai pas les moyens de changer les lumières. Madame Claude, ça a été... Histoire d'eau, mon deuxième. Histoire d'eau, ça a été la liberté de lumière. Et là, j'ai eu des moyens aussi sur Histoire d'eau. Et là, je me suis vraiment remis dans les peintures de l'époque... de l'ambiance, c'était un film un peu plus sombre, clair-obscur. Après, ça a été donc le dernier...
Madame Claude.
Alors là, Madame Claude, il fallait des filles sublimes, il fallait des décors somptueux. Si je me permets de dire que dans Lady Chatterley, qui a été fait après le mien, qui a eu des Oscars, quand on l'a craché dessus, il n'avait rien compris. Ils ont fait un film en province quand on dit « Florence, c'est quoi l'histoire ?» C'est l'histoire d'une femme presque de la royauté qui tombe amoureuse d'un gimmick. Il fallait trouver cette différence sociale. Et que dans Madame Claude, il fallait que faire rêver les gens. Ce n'est pas, c'est pas des putes et des filles. On va pas rue Saint-Denis. On va se sortir avec une fille qui quand vous allez la voir, vous dire mais elle est trop belle pour moi. C'est ça qu'elle vendait la mère Claude, des filles magnifiques, intelligentes, cultivées. Donc il fait un univers de luxe où le cadeau d'une fille de Madame Claude à un client est quelque chose un événement exceptionnel. Et ça a été Et après, dans un film d'aventure comme Gwendoline, c'était...
Là, on est plus proche de... C'est un film très lumineux,
très lumineux, très clair. Très clair.
Ce qu'on disait un peu noir et blanc, avec des touches de
exactement.
Couleurs.
Oui, c'est... Très graphique, oui.
Et à chaque fois, tu vas t'imprégner de photographes, de gravures, de peintures. Comment
non,
tu travailles là-dessus?
Là, en fait, j'ai eu... Cette merveilleuse styliste, décoratrice qui s'appelait Françoise Deleu, qui avait fait 200 films, enfin 100 films avec moi, publicitaire.
Bien sûr.
Donc il connaissait totalement mon univers. Il sait très bien que je n'aime pas le violet, qu'il y a des couleurs que je n'aime pas. Donc c'est même plus à peine discuter, parce qu'on a travaillé ensemble. Elle a eu un talent fou, les moyens. Et il y a une très jolie histoire sur Gwendoline, c'est que on avait un budget de 20 millions d'euros. Et Jean-Claude Fleury n'avait pas les moyens.
Le producteur.
Et pour dire la production, ils ont, on ne peut pas faire le film, donc on arrête tout. Et je lui dis, génie, je m'excuse. Je lui dis, on va faire que des colonnes. Et chaque jour, on bouge les colonnes. On en fait un couloir, on en fait un rond, il ne reste plus que les accessoires. Donc, tout le budget de chaque décor différent a été dans un ensemble droit à la CETA. Et qu'on tournait une journée en extérieur de scène, et pendant ce temps-là, ils changeaient les colonnes, amenaient les éléments au milieu. En fait, on a un seul élément de décor. Le tout collé sur les Baux de Provence. Voilà.
Quand on devient réalisateur aussi, après avoir été photographe, il y a quelque chose qu'il faut apprendre, c'est la direction d'acteur également. Comment as-tu appris la direction d'acteur? Est-ce que le fait de diriger des modèles, c'était déjà un apprentissage? Ou est-ce que tu l'as découvert sur le tas, savoir voilà, comment diriger Françoise Fabian, comment diriger Klaus Kinski, comment diriger...
Je crois que c'est quelque chose extrêmement sain, la direction d'acteur. C'est-à-dire que quand tu as la chance d'avoir Françoise Fabian, le premier qui pleure, le premier qui est ébahi, c'est moi. Parce que tu ne vas pas te permettre de dire à Françoise Fabian c'est pas comme ça qu'on joue. La seule expérience que j'ai eue, c'est avec Kinski. Pour Madame Claude, justement. Et je voulais Kinski. Tu es complètement dingue, il se bat avec ses metteurs en scène. Il ne vient jamais sur le tournage. Et je lis, je lis beaucoup de livres de metteurs en scène et je tombe sur le livre de Jean Renoir qui explique comment il fait avec les acteurs difficiles. Il dit en premier, il faut que tu saches qu'un acteur, il a une opinion de son rôle, sans aucune opinion du film. Il a l'opinion de son rôle. Il ne sait même pas dans l'absolu quels sont les... Bon. Que deuxièmement, il a la trouille, angoissé. Donc, première chose, le rassurer. On dit moteur, on se retourne vers la script, formidable, on print. Et deuxièmement, maintenant, on va essayer autre chose, c'est-à-dire qu'il est décontracté parce qu'il y a quelque chose dans la boîte et qu'il a fait son boulot, il a fait son job. Et c'est là qu'il devient maniable. Donc, sur le tournage... Première scène, Kinski. Bravo, on met un Claude. Colette, qui est ma script, tu printes. Et je dis, Claude, viens voir là. Je lui dis, t'es formidable, que je suis contente avec toi. Mais tu vois, il y a un truc que je trouve ça dommage, c'est que je trouve que tu as des yeux extraordinaires. Tout passe par tes yeux. Pourquoi tu ne fais pas une scène, la même scène, sans geste, sans rien, que tu joues avec les yeux? Il me regarde comme ça, je joue ma gueule. Je dis, non. On fait un film ensemble. Si tu travailles avec moi, c'est que j'aime ton travail. Et si tu fais un film avec moi, c'est que tu me fais confiance. Et demain, on ira au rush ensemble. Ah non, je vais jamais au rush. Les rushs, pour expliquer aux gens, c'est on va voir ce qu'on a tourné la veille. Et couche-toi, on a fait un film ensemble. Tu vas décider ensemble si tu préfères être comme ça ou comme ça. Il vient au rush. Et il voit la première scène où il est comme ça. Il fait, ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est vachement bien. Et l'autre, il dit, ah tiens, c'est intéressant. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisis? Et c'est lui qui a choisi.
La deuxième où il était calme.
Je savais que si je disais c'était ça, il aurait dit l'inverse.
Qu'est-ce qu'il me raconte, Hugo? Tu aurais des photos de moi en train de baiser?
Non, il plaisantait.
Hugo et moi, on est comme des cousins, j'aime cette plaisanterie. À la tienne.
Tu me vois en train de balancer dans la nature des photos de toi, Alexandre Zakis?
Non, je vois pas. Je t'aime bien, tu sais. Je voudrais pas qu'il t'arrive des ennuis.
Merci quand même. Mais qui ça peut intéresser, des photos de Zakis en train de baiser?
Je t'ai boy.
Ah, je suis pas fou.
Ça me rassure. Aïe. Et ça ne soit pas toi, David.
Ah, ben ça doit être vrai ce qu'on dit. Que tu étais docker dans ta jeunesse.
Garçon du café même. Sers-moi à boire.
Hein? Ah! charmant petit con.
Il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que le cinéma de ma génération a été fait par différents groupes de gens. Il y a le cinéma qui vient d'auteurs, Truffaut, il y a des gens qui viennent de la visualité, toute ma génération de films publicitaires. Donc il y a des gens qui sont là, mot à mot sur leur dialogue, et moi c'est mot à mot sur la visualité. Je considère qu'une scène, une visualité, un mouvement explique autant. Confirmé par Madame Claude, qui était Françoise Devillon, qui me dit « On n'a pas à le dire, on a à le montrer ». C'est ça la base de la réponse que je peux te donner à ça.
Et Maurice René, diriger Maurice René.
Alors Maurice René,
comédien,
faut revenir un petit peu en arrière quand même. Tu sais comment est joué Maurice René?
Non.
Emmanuel Sor, succès énorme, comme tu t'imagines. La haine, la jalousie. Et ouais, l'endroit de Paris à l'époque était une boîte, restaurant, club qui s'appelait Castel, où tout Paris était. Et au rez-de-chaussée, il y avait tout Paris le soir. J'arrive, je rentre dans la pièce, tout le monde s'arrête de parler, il y a un monsieur qui fait « Sortez, monsieur, vous avez sali le cinéma français ». Je suis du blême, je suis sorti dehors et je suis rentré chez moi, suicidaire. 4h du matin, le téléphone sonne. Monsieur Jacquin, oui, c'est moi qui dis cette phrase scandaleuse. Je vais vous faire un effet de manche, je m'en veux à mort. Et Castel m'a dit que vous étiez bouleversé. Est-ce que je peux prendre un verre avec vous? Je ne bois pas. Je dis, venez prendre un verre avec moi. Seule fois de ma vie, je me suis saoulé, ma cuite. Donc on est devenus très amis. C'est grâce à Maurice qui m'a présenté François Savion. Et grâce à ces acteurs, parce que, pour expliquer encore, j'ai fait des films, Emmanuel, jeune producteur, jeune metteur en scène, jeune équipe, jeunes acteurs, à part jeune Coltin, on n'avait rien fait. Et quand tu te retrouves la chance d'avoir dans un film où tu as que les grands acteurs, Fabian, Kinski, Maurice René, Robert Wegener, etc., etc., toi, t'es le metteur en scène, qui met son metteur en scène et qui va corriger de temps en temps ou qui va demander autre chose, mais t'as plus de travail à faire. C'est 10 fois plus difficile de faire un film avec des débutants que des grands comédiens.
Alors justement, en amont, il y a le metteur, donc en aval, il y a le metteur en scène qui dirige toute cette troupe dont tu viens de parler, mais en amont, vous avez quand même quelqu'un qui s'appelle le producteur et les rapports qui sont un peu des donneurs d'ordre. Et les rapports peuvent être moins chaleureux, ou pas d'ailleurs.
Alors,
parce que Emmanuel, tes rapports avec les producteurs...
Emmanuel, c'est extrêmement simple. Il est resté à Paris. Notre petite équipe est partie, etc. Il faut savoir qu'on n'a pas vu nos rushs pendant les 3 mois de tournage. C'est-à-dire que la pellicule partait chez Air France, directement au laboratoire. Et c'était Rousserrois qui voyait donc les rushs. Tout se passait bien, parce que les premières scènes, c'était... Et la première scène érotique, je reçois un télégramme. Tu te dégonfles, on ne voit rien. Parce que la première scène d'amour, cette espèce de grand voile, on les voit dans la pénombre, on ne voit rien. Et c'est nul. Et il a voulu me virer. Et là, toute mon équipe s'est mise derrière moi. Et c'est lui qui, en venant sur le tournage, a dit, je m'en fous. J'ai trouvé le gimmick comme le beurre de...
Et qui a fait le fameux plan qui a été sorti aux États-Unis, sorti en France.
Sur le dernier tango. Non, c'est lui qui avait vu le dernier tango, on appelait tout le monde parlait du beurre du dernier tango. Et j'ai trouvé le beurre. C'est les filles qui filment avec leur sexe. Ah, j'ai dit, non, on va passer à la pornographie, qu'on fait un film érotique de qualité. Derrière Bondo, il a tourné le truc. Et il me l'a imposé au montage. Et voilà, ça c'est l'histoire de ce producteur. Sur Madame Claude, l'histoire est assez incroyable, c'est que je refuse Emmanuel II. Et Rousserrois paniqué, mais qui prendre? Prends Jacobetti, grand photographe, il va te faire un film de lumière magnifique, etc. Là-dessus, c'est lui qui va faire... vers Emmanuel II, c'est ça, voilà. Mm-hmm,
absolument.
Et un an se passe, et j'ai un coup de téléphone de Duval, Claire Duval, qui était la productrice de Madame Claude, paniquée en disant « Jacobetti a une dépression nerveuse, il ne veut plus faire le film. » Et Jacobetti a dit « Mais pour me renvoyer la balle, vous n'avez qu'à prendre juste, il pourrait me remplacer. » Je me retrouve au mois de juillet, avec, devant un scénario que je ne comprends pas, qui avait été écrit par Fulilia, Jaco, etc., qui n'était pas un scénario. J'ai dit non, ça, je ne peux pas. Et encore une fois, je refuse. Et là-dessus, Claire Duval dit, et si tu trouves un très bon scénariste? Je dis oui, mais qui? Et il me propose un grand scénariste, qui était le scénariste de tous les films de Gabin.
André Brunelin.
Donc, je rencontre André Brunelin, on lit le livre de Manuel qui avait été fait par le frère de François Zahan qui s'appelait Jacques Quarez, où toutes les filles étaient jolies, toutes les filles parlaient bien, tout était des films formidables, très bien, ça ne fait pas un film. Donc on réfléchit et on dit, allez, on y va, on avance, on prend des risques. Elle a sûrement été protégée par quelqu'un. Donc on invente un inspecteur. Elle a sûrement eu des gros problèmes, des films qui ont eu des problèmes, parce qu'elle a eu des problèmes, une fille qui est rentrée avec une balle dans le bide. Il y a eu sûrement une affaire derrière ça, que les politiques se sont servis de Madame Claude, l'affaire Loukid. Et donc on prend l'affaire Loukid, on prend les emmerdements, on prend son petit ami photographe qui veut gagner de l'argent. Tout ça fait un scénario. Et on prend le courage de faire ce film sans l'acceptation de François, de Madame Claude.
Qui n'est pas au courant.
Et heureusement, à la fin du film, elle est virée, elle est bannie de la France, elle part aux États-Unis. Donc, quand on va la voir, pour savoir ce qu'elle pense du film, elle dit « Mais comment vous avez vu tout ça ?» Mais l'inspecteur qui est joué par Perrault, mais c'est Yourcen. Mais en effet, elle a pu parler puisqu'elle n'était plus en France. Donc elle est toute contente et elle dit cette phrase merveilleuse. Françoise Sabian, c'est moi.
Alors qu'elle ne se ressemblait absolument pas.
Une petite bonne femme. J'ai beaucoup d'éclats de rire. Et donc on a eu la permission. C'est une belle histoire quand même.
J'ai fait quelque chose qui vous a déplu?
Oui. Tu te conduis comme une putain qui fait sa première passe. Tu n'as pas fixé ton prix.
Que je fixe mon prix? Vous voulez me payer?
Pourquoi tu ne veux pas l'être? Pour qui te prends-tu? Ce que tu offres, ça se paie. Alors, ton prix, dis.
Il n'y a que ça qui compte pour vous. L'argent. Vous croyez dans rien d'autre?
Quand on prend la liste des films, quelles sont les raisons pour lesquelles tu acceptes ou tu refuses un projet? Est-ce que c'est le scénario? Est-ce que c'est les gens avec qui tu dois travailler? T'amène souvent des choses?
On m'amène des choses que je ne comprends pas. Je ne suis pas un intellectuel, je suis un visuel. Donc si je ne peux pas mettre mon univers dans un scénario, si tu trouves un scénario où il y a un théâtre filmé dans une journée entre une pièce, je suis pas à l'aise, c'est pas mal. Moi j'ai besoin de montrer, de chercher des détails. Je suis un visuel, je suis pas un intellectuel. Et d'ailleurs, j'ai toujours fait confiance au dialogue des scénaristes. J'ai très 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 peu collaboré au dialogue, sauf d'amener ma vie, c'est Rib qui a pris mes envies, j'ai appris Sau qui a pris mes envies, mais je me suis rendu compte à chaque fois que c'est la visualité, je voyais mon fils, je disais oui parce que je voyais ce que j'allais faire, mais le fond de l'histoire, la profondeur de l'histoire, ça venait du scénariste, à qui je faisais à 100% confiance.
Mais il n'empêche qu'à l'arrivée, ça devait te plaire sur le fond, puisque comme on en discutait avant que les caméras se déclenchent, il y a quand même des liens très forts qui unissent tous ces films. Par exemple, tous les films que tu as réalisés mettent en scène des personnages féminins forts.
Ah voilà. C'est drôle que tu me poses cette question-là, parce que il faut que tu saches que je suis un des rares metteurs en scène qui a fait 8 de mon métrage et qui a été attaqué partout, à chaque fois. J'ai jamais eu une bonne critique, sauf les Anglais, pour Lady Chatterley.
Gwendoline, ça n'a pas été des bonnes critiques, Gwendoline ?
Oui, mais comme c'est le dernier, c'est un peu mieux. Quoi. J'étais un peu mieux accepté dans le milieu. Comme je disais tout à l'heure, le milieu cinéma ne m'a vraiment jamais accepté et je n'ai jamais aucun fait d'effort pour aller dans les dîners, dans les CDE. J'ai jamais été à Cannes invité. J'ai toujours un peu comme de brocard. On avait nos vies à part. On n'était pas. Jean-Jacques Hano, par exemple, c'est un mec qui vit complètement à 100% pour le cinéma. Il est président d'un truc, c'est l'antithèse de. Je gardais ma liberté.
Et donc les personnages féminins forts.
Donc évidemment, j'ai eu droit aux féministes, j'ai eu droit aux interdits, aux X d'Emmanuel. Et toutes les attaques, c'était des banderoles pour empêcher les projections d'histoire d'eau. Exactement comme l'histoire de Polanski à Cannes, j'avais des filles dehors avec des banderoles qui rentraient, qui ont arrêté de projection, c'était très dur. Et la seule défense que j'ai eue pour les arrêter et leur clore le bec, c'est que dit, vous parlez que je suis un phallocrate qui fait un film d'homme. Qui a écrit Emmanuel ? Une femme. Et mon seul travail, ça a été de comprendre ce que les femmes voulaient et de respecter leurs envies. Mon deuxième film, Madame Claude, qui l'a écrit, une femme qui déteste les hommes, qui fait les belles filles en leur disant, pour se venger, la base de Madame Claude, c'est qu'elle a haïssé les hommes. Histoire d'eau, c'est quoi ? C'est une femme qui aime, qui écrit des lettres d'amour, qui dit, je suis ta maîtresse, ta pute, ta femme. C'est magnifique. Donc, après, Lady Chatterley, c'est l'histoire d'une femme qui ne veut pas choisir entre l'homme qu'elle aime intellectuellement et l'homme qu'elle aime physiquement, qui fait de deux hommes un homme. Donc, dans Emmanuel, Jean-Louis Richard est une chose extraordinaire, de la première scène mondiale cinématographique où on voit deux lesbiennes qui s'aiment et qui ont une histoire d'amour. On a reçu des lettres formidables, on a dit merci de nous montrer qu'on n'est pas des putes, qu'on n'est pas des salopes, qu'on est deux femmes qui s'aiment, c'est aussi beau que deux hommes qui s'aiment. Jean-Louis Richard avait 40 ans d'avance. Il a montré que l'homosexualité est une chose très belle.
Et il y a, en plus de ceci, il y a quelque chose qui relie tous les films, c'est que tous ces personnages féminins sont à chaque fois à la recherche de quelque chose. Elles ne considèrent pas du tout que l'acquis est définitif, il faut toujours aller de l'avant. Que ce soit Gwendoline qui va rechercher le papillon, que ce soit Emmanuel qui va rechercher d'autres sensations et d'autres expériences. À chaque fois, il y a un goût pour l'expérience, pour la recherche.
Alors, la plus belle phrase que je peux te dire, c'est que c'est Pierre Bachelet. Je vais dîner un jour chez des mineurs qui me disent, monsieur Bachelet, quelle horrible vie vous avez. Toujours à droite, au fond, à gauche, jamais dans votre famille et tout. C'est exactement ça. Il y a des gens qui aiment. Et nous, on est aventuriers. Faire un peu de photos, un peu de cinéma, un peu dessiner, un peu de direction artistique. En sport, faire une course de voiture pour déraper en moto, pour déraper en ski. Chaque chose amenant à l'autre quelque chose. C'est avancer pour, et je vais ressortir ma phrase intellectuelle, Cocteau disait, ce sont les mêmes branches, les mêmes du même arbre. Parce qu'on a attaqué Cocteau pour les mêmes raisons, on a attaqué Labro pour les mêmes raisons.
Des gens qui font plein de choses différentes.
Les gens ne comprennent pas.
Et il y a également ce qui caractérise tous ces films, je ne sais pas comment le dire de façon précise, une grande positivité et un grand optimisme. L'exemple que je pourrais donner, c'est Lady Chatterley, le roman de Lawrence se termine de façon beaucoup plus ambiguë que le film, qui se finit quelque part de façon positive, puisque Lady Chatterley va rester avec...
Sauf que tu sais que Lady Chatterley a fait deux versions. Oui. La première version que j'ai prise, c'est une version d'amour, vraiment, de cette histoire de cette femme contre deux hommes, parce que le deuxième est devenu complètement politique. Le deuxième était montrer l'aristocratie contre le paysannisme. Le premier était une histoire d'amour, le deuxième était devenu un livre politique. Et c'est vrai que c'était positif, parce qu'elle a fait un choix à un moment, mais... Est-ce qu'elle est revenue chez... Après, est-ce qu'elle est revenue chez Sir Clifford? On ne sait pas. J'ai essayé une ambiguïté.
D'ailleurs, c'est assez rare, la critique, entre guillemets, sociale dans tes films. Il y a Lady Chatterley et peut-être un peu les expatriés d'Emmanuel qui ne sont pas montrés de façon très sympathique. Mais à aucun moment, la critique sociale intervient dans tes films.
Non, ce n'est pas mon truc. C'est des choses que... C'est des choses, si tu veux, que je suis athée et je suis antipolitique. C'est-à-dire que moi, je suis aussi à l'aise avec le roi et aussi à l'aise avec le paysan du coin. J'aime les gens et je me traite devant un roi exactement aussi normalement que ça. C'est pour ça qu'il m'aime bien. Pourquoi? Parce que moi, je suis naturel et que je n'ai pas léché de pompe. J'aime pas, je le dis. C'est ça que... Je suis un naïf, comme disait la bro a tout dit.
Je t'aime vraiment. Et je veux aller dormir avec toi dans ta maison. Et je le ferai.
Quand?
J'ai besoin que tu me dises que mon corps est beau. Je voudrais être ta femme, tu sais, mais je n'ai pas le droit de quitter Clifford. Lui, il se rend compte de quoi j'ai besoin. Toi, te rends-tu compte que j'ai besoin de lui?
Mais il dirait quoi s'il savait que c'est moi?
Je n'en sais rien. Et je ne lui dirai jamais.
Non, ça, tu lui diras jamais. Sinon, ça casserait tout et tu le perdrais pour toujours.
Et ça n'a rien à voir avec ta classe sociale ou la mienne.
C'est idiot ce que tu dis, ça a tout à voir avec ça. C'est évident.
Alors mieux vaut nous séparer.
Moi, je t'ai tout donné. Et toi, tu ne m'as rien donné en échange.
Tu me détestes donc à ce point. Je comprends, je ne viendrai plus ici.
Pour une autre phrase également que j'ai repérée, que tu avais prononcée, qui me paraît un peu, pas contradictoire, mais à compléter par rapport à tout ce que tu viens de dire. Après Emmanuel, j'avais compris qu'il me faudrait beaucoup de temps pour réaliser un film plus personnel. C'est curieux quand même d'opposer le film de genre... au film personnel. John Ford fait des westerns, il fait des films personnels. Melville fait des polars, il fait des films personnels.
Pourquoi j'ai dit cette phrase ?
Juste Jacquin fait des films érotiques, oui, qui sont aussi des films personnels.
Oui, mais j'ai dit cette phrase dans un autre contexte. C'est-à-dire que les gens de cinéma que j'ai rencontrés pendant 10 ans avant de faire du cinéma, Claude Berry, qui était un grand ami, sa femme, on passait des week-ends ensemble, et après le succès d'Emmanuel, il venu me voir. Et j'étais persuadé qu'il savait que j'avais un film d'aventure, que j'avais des films différents. Il m'a proposé quoi? Un film érotique. Et j'étais fou de rage. Il dit, mais attends, fais-moi faire autre chose. Il n'a pas voulu. Et ce jour-là, j'ai compris qu'on ne me proposerait que des films érotiques. Et j'ai eu un mal fou à en sortir. Et ce qui est extraordinaire, que si le dernier amant romantique, j'ai pu le faire, c'est que l'Entéric était persuadé que j'allais faire autre chose. Et je ne sais pas ce qu'il a vendu aux Américains, est-ce qu'il faisait l'amour avec l'éléphant, je ne sais pas. Et quand ils ont vu le film, les Américains, en projection à Saint-Cloud, d'abord, chose extraordinaire, ils nous ont fait sortir de la salle. Ils regardent les films tout seuls. On était là dehors à attendre. Ils sont sortis fous de rage. On ne sortira pas ce film. C'est pas ce que vous m'avez promis.
Il avait lu le scénario. Oui, mais... Non.
Ils avaient juste chacun point ligne. Et l'entérique a dû aller dans son sens. Elle fait l'amour avec l'éléphant, avec le serpent. Tu vois. C'est marrant la vie. La mienne est extraordinaire.
Il y a aussi un thème qui traverse tous tes films, qui est l'argent. Et qui est un rapport assez ambigu à l'argent. C'est-à-dire, soit on n'en parle pas, soit chez Madame Claude, on cherche à en gagner. C'est à la fois une nécessité pour avoir sa liberté, mais c'est également une aliénation. C'est quelque chose, c'est un thème qu'on retrouve dans tous tes films.
Tu me poses une question.
Surtout dans Madame Claude. Il y a une problématique dans Madame Claude d'argent qui est assez complexe.
Le problème d'argent, c'est le pouvoir. Donc Madame Claude a le pouvoir sur les hommes, parce qu'ils n'ont pas les très belles filles, si elles veulent les avoir, il faut payer. Argent. Dans l'histoire, il n'y a pas un gramme d'argent. C'est une histoire d'amour entre... T'es d'accord?
Absolument.
Dans...
Girls?
Dans Girls, c'est l'argent pour des jeunes.
Oui.
L'argent pour se payer une moto, l'argent pour faire la fête. C'est pas de l'argent... Ils n'ont pas encore une destinée de vue de...
Lady Chatterley aussi, quelque part. Il y a une aisance matérielle qu'elle décide d'abandonner.
C'est pas de l'argent, c'est pas gagner de l'argent, c'est l'argent de société. Et là, après, dans le dernier Gwendoline,
L'argent n'existe pas en tant que tel, je veux dire. On est dans le domaine du rêve.
Elles sont forcées de se mettre dans une caisse pour voyager. Et il y a une scène extraordinaire où je suis 3 minutes dedans. Le capitaine qui refuse de donner le bateau.
Tu étais aussi dans le dernier amour romantique. Tu fais une apparition.
Oui, je fais Je bégaye. Tu sais que je suis bégayeur.
Non, ça ne s'entend pas.
J'ai toute ma jeunesse, on m'appelait le muet parce que je ne parlais pas. J'ai pas d'amis, parce que comme j'étais nul, j'ai fait aucune école. Viré. Et mes premiers amis de ma vie, c'est le service militaire. Et malgré tout, quand tu es un stunter, un bégayeur, il suffit que tu trouves quelqu'un devant toi qui bégaye, que je rebégaye tout de suite. Je me retrouve à Londres, je prends ce grand musicien, Stanley Myers, qui bégaye. Donc on se dit bonjour, et puis on se met devant l'écran, et il m'explique comment il voit la musique. Alors il y a une grande scène. Perras, vous me musez musère vert. I think you're right. Il me regarde comme ça. Don't worry, I'm a stunter too. C'est mignon,
oui,
cette histoire.
Oui, c'est bien, la solidarité entre bègues. Est-ce que l'on peut repartir maintenant dans les différents films, compléter un petit peu tout ce que tu nous as dit, en revenant de façon plus précise, d'abord en commençant par Emmanuel. Comment tu vois le film rétrospectivement après quelques décennies? Comment tu expliques le phénomène d'Emmanuel qui échappe quand même, quasiment la qualité même du film, je veux dire, à ce niveau de succès, et toucher quelque chose d'universel.
Extrêmement modeste par rapport à Emmanuel. Premièrement, c'est arrivé une époque, right moment, la pilule, liberté sexuelle, l'ouverture à plein de choses. Donc, c'est plus un film, ça devient un film de société. Que le film ait marché sur le livre au départ, qui était un livre caché.
Que tu avais lu?
Non, c'est Rousseau. Et après, c'est devenu un film de société. Il fallait, quand tu penses qu'il y a des carentiers qui venaient d'Espagne en France pour voir le film, qu'en Angleterre, à l'époque où les billets de cinéma se vendaient comme billets de théâtre, on les achetait d'avance, les billets se vendaient à 20 fois leur prix. Qu'on a commencé à 7 salles à Paris, on a fini à pratiquement 20 salles, qu'on a fini à 13 ans aux Champs-Élysées au même cinéma Le Triomphe, que sur la motte de vacances des Japonais, il y avait marqué Hôtel Nikko, le Louvre le matin, le déjeuner au Nikko, 2 heures, c'est la séquence d'Emmanuel, 4 heures, Louis Vuitton.
Oui, ça faisait partie du folklore parisien. Oui.
Ça m'avait échappé complètement. D'ailleurs, il faut savoir que toute œuvre de tout artiste de tout univers différent, tu lis un livre, tu vois un film, tu te l'adaptes. Et le metteur en scène perd complètement pouvoir sur ce qu'il a fait.
Tu as dit qu'il t'avait fallu très longtemps pour le revoir, le film.
J'ai refusé de le revoir au moins pendant 20 ans.
Pour quelle raison ?
Trop de mauvais souvenirs.
De tournage ?
La tôle, les critiques, l'équipe qui disait oh, c'est nul, ce que tu fais, Rousserrois, mais tu t'es dégonflé, tu vas être viré du film. Ça a été très, très, très dur. Un truc très simple, humainement et familialement personnel. J'invite maman vers le film. Elle dit bonjour, bonjour, bonjour. Elle s'installe, le film commence, et je la vois descendre. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? On ne se rend pas compte quand un tel déclenchement de critiques qui t'es merde, que tu fais une merde, que tu es nul, que tous les grands journaux qui travaillent avec moi ont dit non, on ne peut plus travailler avec toi. On ne peut plus mettre du Jacquin, elle. On ne peut plus mettre du Jacquin avec Vogue. Tu te retrouves 2 ans sans travailler. Tu me dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
Et en le revoyant quelques décennies après, t'as pensé quoi du film ?
J'arrive pas à avoir d'opinion. Il y a quand même reste... À chaque image, je me rappelle ce qui s'est passé. J'ai pas ce... Chaque image de Gwendoline, je me marre. Chaque image de Lydie Chatt, je me marre. J'ai envie, c'est un plaisir. Et quand tu te rappelles que Sylvie Christel, merveilleuse comme elle était, ne parlait pas français.
Elle était doublée dans le film.
Et que sur le tournage, elle essayait de dire les phrases. Je t'ai vu hier. Et qu'il a fallu que la fille qui l'a doublée arrive à dire « je t'ai vu hier », combler les trous du français par rapport à sa langue. Et quand toute l'équipe était là sur le tournage, à annoncer pour lui « j'étais là hier ». Et François Sabian qui disait «
hein ?» Est-ce que d'ailleurs tu peux nous parler un peu de Sylvia Christel que tu as découverte,
bah,
qui avait quasiment rien fait avant de faire Emmanuel ?
D'abord, je l'appelle ma petite sœur, comme Corinne Cléry. Personne ne voulait faire le film. Personne. Comme un grand photographe, j'avais accès à toutes les agences. Toutes les agences ont dit hors de question de faire un film érotique. J'ai essayé d'y biaiser en invitant les grands mannequins qui me connaissaient pour leur faire comprendre qu'on pouvait faire. La seule qui a accepté, Marika Green. Toutes les autres ont dit non. Pas elle spécialement, c'est les agences de mannequins qui disent « tu vas foutre ta carrière en l'air ». La seule personne qui m'a fait confiance, Marika Green, qui est devenue une signe de... Et la seule comédienne véritable du film, ça a été Jeanne Konka. Et le mari.
Et Alain Cuny.
Et alors, attends, Alain Cuny, tu plaisantes. Alors là,
qui était un acteur connu, quand même.
Pourquoi, quand j'apprends que pour Mario, qui est un homme séduisant, qui séduit toutes les femmes et leur donne cette instruction du sexe, il faut que tu avances, il faut que tu essayes, il faut avancer, ce qu'on disait tout à l'heure. On va prendre un vieillard pas sympathique qui m'a fait chier pendant tout le film, imposé par M. Rousserrois, encore comme la scène du cul, parce que ça donnait une cause intellectuelle. On ne pouvait pas attaquer Alain Cuny. Je me suis battu contre lui.
Tu aurais pris qui dans un monde idéal ?
Je ne sais plus. J'aurais encore eu des problèmes de trouver un bon acteur. Parce que j'étais pas dans le milieu du cinéma. Donc, j'étais que dans le milieu de la photo. Donc, les seuls acteurs que j'ai connus, c'est en les photographiant.
Et pour en revenir à Sylvia Christel...
Ah, pardon, oui. Donc, tout le monde ayant refusé, en panique pratiquement... On ne sait plus quoi faire, quoi. Et Nicolas Ray, un grand metteur en scène américain qui était à Amsterdam, qui me dit « Viens, les filles du Nord sont beaucoup plus ouvertes et libres. » Ce qui a été un problème d'avoir dit ça, c'est que Sylvia a dit aux journalistes après « Oui, Jacquin, elle a dit que j'étais plus libre. » Donc, je dis « Non, attends, on a dit que les femmes étaient plus ouvertes, libres. » Donc, je fais un casting d'Eurasienne.
Oui, parce qu'Emmanuel Arsan était d'origine eurasienne.
Des filles magnifiques, des cheveux noirs, noirs, tout. Il y avait... Mais je te dis, t'avais de quoi tomber un mot. Toutes les filles qui étaient là, tellement étaient belles. Et si bien, subitement, je vois un espèce d'échalas blond, cheveux courts, qui passe comme ça. Je la regarde, je dis, c'est elle. Un directeur de casting me mettait quoi les mains. Tu me demandais d'Eurasienne, tu veux aussi dire. J'ai dit, je sais pas pourquoi. Son nom Christelle, c'est magnifique. Parce que le choix d'Emmanuel comme actrice, si tu prenais quelqu'un de physiquement trop érotique, qu'est-ce que c'est l'érotisme? Qu'est-ce que c'est la différence entre l'érotisme et la pornographie? C'est, il y a une montagne comme ça, il y a un pic, l'érotisme il va jusqu'à là-haut, puis il s'arrête là.
Il faut trouver l'équilibre.
Les pornographies, ils passent de l'autre côté. Donc il fallait trouver quelqu'un. Tu pouvais mettre de mettre sur la tête n'importe quelle scène un peu dégueulasse. Elle était tellement pure, Sylvia. Naïve. Aussi naïve que moi, pour te dire. Et je savais que quoi qu'on fasse, elle serait Christelle. Problème, c'est que elle aussi, il fallait la convaincre. Elle a eu la chance formidable, c'est qu'elle était mariée avec Hugo Claus, grand poète belge. Et je lui ai dit, est-ce que je peux rencontrer ton mari? Et Hugo Claus, je lui ai dit, écoutez, vous ne me connaissez pas, sauf par rapport à certaines de mes photos, vous ne connaissez pas mes films publicitaires, vous ne connaissez pas... Venez chez moi à Paris. Donc ils sont venus dans mon studio, j'ai projeté mes films publicitaires, j'ai montré toutes les photos que j'avais faites. Et il dit à Sylvia, tu peux le faire. Il répond cette phrase formidable. Je ne sais pas si le film sera bon ou mauvais. Il sera toujours beau. Et si juste a promis de moi jamais montrer une pénétration et jamais te... Fais-lui confiance. Voilà l'histoire de Sylvia Christelle.
Et quand vous l'avez retrouvée sur Lady Chatterley quelques années
plus tard, j'ai retrouvé la même.
Elle n'avait pas changé?
Sauf qu'elle avait maintenant, on parle en anglais, donc c'était sa langue. Et deuxièmement, elle avait fait plein de films, donc elle s'est devenue une très très bonne comédienne.
Vous l'avez retrouvée comme au premier jour?
Comme au premier jour. On s'est revus d'ailleurs très souvent à Los Angeles. Puis c'était devenu une grande vedette.
Hein. Ah oui? Oui, bien sûr.
Et je sais qu'à sa mort, je me suis battu énormément contre tous les journalistes français, comme par hasard, qui ont osé dire dans les journaux, « Ouais, Sylvia Christelle, elle a fait un mauvais film, ça s'appelle Emmanuel, et après elle a disparu. »
Alors qu'elle avait tourné avec Chabrol, elle avait tourné avec Delon, elle avait tourné...
Hallucinant.
Francis Giraud.
Fou, je disais, traité vraiment de la merde. Et je leur disais, écoutez, c'est très simple. Un journaliste arrive, français. Vous êtes juge Jacquin, J-A-E-Q-I-N ? Non, J-A-E-C-K-I-N. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai fait d'autres films. Hein. L'Américain arrive, journaliste. Judge Jacquin, 8840, you did that, 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 that. C'est tout. C'est la même chose. Le cinéma est un métier de professionnel. Et les journalistes ne sont pas toujours professionnels. Et j'étais furieux pour Sylvia. Je me suis battu à un tel point que la famille a interdit aux journalistes de venir à l'enterrement. Je suis le seul Français à être à l'enterrement de Sylvia.
Le film a été interdit un peu partout quand même, ce qui est quand même paradoxal par rapport à...
Paradoxal, bah oui, politiquement.
Un succès qui est interdit partout, je sais.
Il a été interdit en Espagne, ça je le sais. Aux États-Unis, il est sorti. Avec cette phrase magnifique, X was never like that, ça veut dire le X n'a jamais été comme ça. Et après, bon, dans d'autres pays, au Japon, ça a été. J'étais un dieu. Elle était, c'est toujours été une déesse là-bas au Japon. La première interview au Japon. Je me retrouve que 300 journalistes qui sont là avec l'interprète qui me pose une question, comme toi. Et je réponds, elle traduit, et toute la foule. J'ai manqué de casser de rire. Tout ça en même temps.
La transition entre Emmanuel et Madame Claude, c'est un peu dans ton goût du dépaysement et du voyage quand même. On voyage beaucoup dans les films de Jules Jacquin.
Oui, mais c'est très simple, c'est que le jour où tu as la chance d'avoir un grand scénariste et écrivain, Brunelin, devant toi, et tu lui dis ce que tu aimes, et qu'on décide d'aller en Angleterre, aux États-Unis pour la faire Loki, qu'on va en Arabie, c'est du gâteau pour moi. C'est pas deux personnes dans une pièce, c'est toujours... Quand on voit la scène avec le chat, on a fait un décor somptueux. On a eu les moyens de faire ça. On a eu le Concorde, on a eu...
Tes rapports avec les États-Unis sont empreints de chaleur ou de...
Grande chaleur pendant 2 ans.
Ouais.
Je suis arrivé là-bas, comme tous les jeunes Français qui rêvent aux États-Unis. Je me suis rendu compte très rapidement que... Les gens que tu connais pas sonnent à ta porte le premier jour, qui savent, qui te racontent leur vie, etc. Et qui, le lendemain, ils sont partis, ils ne se sont même pas dit au revoir, ils ont vendu tout sur le gazon, ils sont partis. Et Francis Weber a dit une phrase magnifique pour les États-Unis que j'ai appris à comprendre. Quand les Américains te veulent, tu as droit au Concorde, au tapis rouge, à la limousine, tu arrives chez. À la Colombie ou ailleurs, tu as rendez-vous à 10h, à midi, tu es toujours sur ton siège. Ça s'appelle le put-down. Te remettre à ta place. Et après, quand ils n'ont plus besoin de toi, ils ne te prêtent même pas un vélo pour retourner à l'aéroport. C'est ça, les États-Unis. Si on n'est pas conscient de ça, le rêve des États-Unis, tu vis avec les gens qui gagnent 1 million de dollars. Tu en gagnes 10, tu vis avec les gens qui gagnent. Tu perds. Tu redescends là, les gens te disent, se voient plus. Toute la journée, c'est « Oh, juste, that's nice, how much ?» C'est un pays d'argent.
Et tu n'as pas décidé d'y rester, où tu aurais pu faire carrière, tant que photographe.
Ah si, j'ai eu un gros projet avec David Bigelow. Manque de peau, il se fait piquer pour cette histoire d'argent touché sur les chèques de Charlton Heston. Le jour où David Begannon a été viré, les projets sont tombés. Et j'avais envie de revenir en France.
Sans aucun regret, quoi.
Aucun regret.
Pour en revenir à Madame Claude, il y a quelque chose qui me paraît très personnel dans le film. On a beaucoup parlé, à juste titre, de la prestation, de la présence de Françoise Sabian en Madame Claude. Il y a un autre personnage qui est extrêmement fort, qui est le personnage de Deladon, et une bonne partie du film est construite sur l'opposition entre les deux, entre Madame Claude qui s'intéresse à l'argent, alors que Deladon...
Il y a plus que ça. Si je prends ton raisonnement, il y a l'argent de Madame Claude... Beaucoup plus sur se foutre de la gueule des mecs, pour se venger des hommes. Deuxièmement, ne pas oublier que c'est une mythomane, Madame Claude. Elle a raconté qu'elle avait fait de la résistance, que c'était totalement faux, etc. Tu as les femmes qui font ça pour se faire des bonnes fins de mois. Tu as des femmes qui font ça parce qu'elles en ont envie, côté Buñuel, Belle de Jour, la dentiste, qui fait ça parce que c'est un fantasme personnel. Elle y va pas pour de l'argent, elle y va par fantasme. Tu as Adèle Haddon, qui n'a pas un rond, qui va voler des vêtements parce qu'elle n'a pas un rond. Mais une fois qu'elle se retrouve dans le système et que l'argent, elle se rend compte qu'elle se déflore complètement, elle arrête. Je trouve que c'est intéressant, ta question, parce qu'il y a plusieurs façons de l'argent dans le film.
Il y en a une qui est, j'allais dire, plutôt l'intelligence et la raison, Françoise Fabian, et l'autre qui est plutôt l'instinct et la vitalité, qui est Adèle Haddon.
Oui, mais le désir de ces gens-là, sont tous différents.
Tous différents. Et Madame Claude est souvent montrée de façon un peu tragique, quand elle est toute seule dans sa suite somptueuse d'hôtel, mais toute seule avec en face de son petit plateau, c'est pas l'image du bonheur. Il la réussit.
Mais... quand tu n'aimes pas les hommes, tu ne peux pas avoir d'amis. C'était volontairement, elle m'a dit un jour, j'adore humilier les hommes. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour ça? Je sais pas. Peut-être été violée ou je sais pas. Des choses de grave dans sa tête. Mais ça n'empêche pas que je ne crois plus rien de Madame Claude. Qu'elle a... dans les livres qui ont été faits les années suivantes, tout était fond, c'était une mythomane. Elle n'a jamais été... elle n'a jamais sauvé de juifs, elle n'a jamais été protégée, et elle a joué avec ses mythomanies pour faire croire aux flics qu'elle était protégée par l'État. Elle a joué avec tout.
Elle a vraiment fourni le président des États-Unis, selon toi?
Moi, je crois. Les Américains... D'ailleurs, je te signale qu'il y a une histoire d'un de mes amis très proche, qui s'appelait Delachaux, qui était justement une agence de protection up, très up, qui s'occupait de tous les gens qui venaient de partout. Et un jour, il a été tué. Glenn a été tué, son associé. Et qu'est-ce qui les a tués? C'est que le premier Del me racontait, parce qu'il vivait avec Adèle Haddon, Glenn. On rentrait du théâtre, on marchait dans la rue, deux hommes, impeccables, tranquille, paf, paf, ils n'ont même pas couru pour partir. Donc, des professionnels.
Bien sûr.
C'est pas du chantage de voyous. Donc, est-ce qu'un président ou XY a vu que de la chaux et Glenn ont vu que les choses qu'il ne devait pas voir?
Oui.
On l'a jamais su, on l'impute, mais c'est tout.
Je m'en vais.
Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur, toi.
Je n'ai pas peur. C'est seulement que je ne peux pas rester plus longtemps. C'est impossible, voilà.
Tu ne peux pas me quitter comme ça. Si personne ne se décommande, j'ai au moins 10 rendez-vous pour toi.
C'est tout ce qui vous préoccupe. Rien d'autre que vos rendez-vous. Rien d'autre que la réputation de Madame Claude. Votre réputation, Madame Claude. David et Anne-Marion sont morts. Ils sont morts, Madame Claude. Pourquoi ont-ils été tués? Pourquoi? Vous le savez? Mais vous ne direz jamais rien, n'est-ce pas, Madame Claude? C'est à cause de vous et des gens de votre espèce qu'ils sont morts. C'est comme si vous les aviez tués vous-même.
Lady Chatterley, est-ce que tu pourrais nous parler de l'intro de la scène d'ouverture de la mort de Lady Chatterley, où manifestement, tu as pris un plaisir à filmer les chevaux, la nature, les oppositions de rouge et de vert, qui n'est pas dans le roman de Lawrence.
D'abord, je considère qu'on a un film... Visuellement, on a fait un film à deux. Robert Fresque est mon frère, à qui on a fait plein de films, etc. On est parti un mois avant à Londres. On était voir les décors. Et on était dans tous les musées. On était voir les Turner, on était voir les Gainsborough, on était... pour s'imprégner des couleurs, s'imprégner. Quand tu vois les faces de la White House, c'est toujours des costumes rouges, des médailles, trucs, des flambants, des robes incroyables. Donc il fallait qu'il y ait un luxe dans la beauté de ça. Et. On est arrivé sur le film avec presque devenu des Anglais. On pensait anglais, on pensait costume. Et donc, dans le scénario, quand on a décidé avec l'écrivain que pour aimer Sir Clifford, il faut montrer comment il était avant. Il faut montrer un mec à chasse à cour, un beau mec qui danse, les femmes sont folles de lui, qui va à la guerre avec le fusil, la fleur au fusil. C'est un héros, il est beau, tout le monde l'aime. Premier jour de guerre, il reçoit une balle dans le dos. Et là, l'histoire commence. Et les globus, les ignobles globus...
Golam.
Vous voulez commencer comme ça. Ah non, just, you have to stop because it's too expensive. Je dis, ah non, on l'a fait, ça je fais pas le film. Donc, ok, mais very slow, hein, very little. Donc je me trouve sur le tournage, c'est dans le cinéma, on a une planche comme ça où il y a des réglettes qui disent chaque jour de tournage, on peut les bouger par rapport à la pluie, au soleil, etc. Et mon assistant anglais, qui était l'assistant de Ken Russell, vient me voir, il fait aussi un truc très bizarre. Le directeur de production américain changeait les réglettes et mettait toutes les scènes de chasse, de danse à la fin. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Ben, ça veut dire qu'il ne veut pas les tourner, qu'on aura fait tous les films filles, il dit, ah, on n'a plus d'argent. Et génialement, il reprend toutes les glettes. Là-dessus, le directeur de Buisson, quand il apprend ça, il appelle les Golem Globus qui arrivent en concours en disant, you are fired, vous êtes virés, dehors. J'ai dit, mais écoutez, messieurs les producteurs, Globus, Yolam, vous avez vu les contrats, il y a marqué juge Jacquin. Sylvia Risset, si Sylvia s'en va, ou moi je m'en vais, il n'y a plus de film. Et écoutez, on ne va pas se battre. Vous allez voir les rushs. Les rushs, on dit tout à l'heure, c'est l'endroit où ils partent, tout le tournage est arrêté, parce qu'on est tout arrêté, viré. Et deux heures après, ils arrivent en courant, you have a white card. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, Yoram Globus faisait des films de basse qualité, à 300 à l'heure, en 15 jours de tournage. Ils avaient une réputation de merde. Ils signaient des films à tout le monde. Ils n'ont jamais un joli film. C'était pour eux se rendre compte qu'ils avaient peut-être la possibilité de se remonter d'un temps. Donc voilà l'histoire de ça.
Tourner en anglais, t'as pas été difficile
parce j'ai passé la moitié de ma famille en Angleterre. J'ai un peu perdu mon anglais. Je suis incapable de faire ce qu'on appelle le double meaning. Double meaning, c'est que quand tu parles en français avec un copain, tu racontes trois trucs qui ont un sens différent mais qui veut dire la même chose. C'est-à-dire double. En anglais, tu ne comprends plus parce que le meaning veut dire autre chose. Ça, je ne suis pas capable. Mais je parle anglais normalement. I can't tell you, I speak very good English.
Les scènes de sexe sont beaucoup plus physiques que dans tes précédents films. Là. Dans L'amant de Lady Chatterley, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus charnel.
Oui, plus charnel, parce qu'il y a de l'amour. Qu'est-ce que c'est le sexe est un mot sec, dur. Moi je dis, ils font l'amour. J'avais écrit d'ailleurs une chanson pour un copain anglais qui s'est dégonflé. C'était Don't fuck me, make love to me. T'as compris?
Oui, très bien.
Ne me baisse pas, fais-moi l'amour. C'est exactement la réponse.
Est-ce qu'on peut parler de Gwendoline?
Ah, mon Gwendoline.
Est-ce que tu avais lu la bande dessinée de John Wiley?
Oui. Alors quand ils sont venus me voir, évidemment, en disant, on va faire un film de bondage, j'ai dit, mais attendez, un film de bondage, qu'est-ce que c'est un film de bondage?
Qu'est-ce que c'est un film bondage?
C'est des films attachés, etc., en noir tout le temps. Il n'y a pas de scénario. C'est ce qu'on appelle un fantasme de quelqu'un. Le bondage, c'est une partie de sexe. Comme il y a plus différentes façons de faire l'amour. Il y a des gens qui se font feuilleter, on voit dans Madame Claude. Il y a des gens qui aiment se faire taquer derrière, comme dans Madame Claude. Il y a des formes d'érotisme, mais il y a des gens qui adorent ligoter. Les Japonais sont fous du bondage. Et j'aurais dit, moi, je vois pas. Et comme Gwenny était d'une bande dessinée, j'ai dit, pourquoi faisons pas du bondage marrant, sympa, marrant. Et que j'avais un grand copain qui était metteur en scène avec moi, qui s'appelle Jean-Luc Vouchot, que j'adore. On va s'amuser. Il me pose ce scénario qui m'enthousiasme. J'ai éclaté de rire à chaque page. J'ai dit, on va faire un truc formidable. Et je me suis marré pendant tout le film.
Mais c'est le film, j'ai l'impression, qui est le plus référencé cinématographiquement. C'est-à-dire qu'on pense à l'Atlantide, on pense à Apocalypse Now à cause du bateau ou des sauvages.
Alors là, c'est...
À Shanghai Gesture.
Là, c'est ma culture cinématographique qui revient.
Shanghai Gesture, c'est quand même... Est-ce que tu peux nous parler du plan d'ouverture absolument incroyable sur le port en Asie?
Ah oui. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, tourner un film à Avignon, ce n'était pas possible. Donc, car chaque scène devait être un décor, que chaque décor devait partir dans un studio, si bien qu'on aurait pris tout Billancourt, tout. Qu'en fait, mon film s'est fait dans deux endroits. Billancourt, où on changeait une journée pour qu'on tournait à
La Ceuta.
Et là, Françoise Deleu m'a fait un décor. On est rentré là-dedans, qu'on a vu les Japonais, les Chinois qui étaient là. Tu te rends compte qu'on a été forcé de mettre de l'antisecticide poisonneux sur tous les fruits, tous les légumes du décor.
Parce que les figurants venaient les manger.
Parce qu'on dit moteur, on fait une scène, on arrête, on remaquille, il n'y a plus rien. Les Chinois étaient Chinois. Ils ne parlaient même pas français. On avait un directeur d'acteurs casting chinois qui était le mec qui a fait les cascades, qui est champion du monde de karaté.
Celui qui fait toutes les bagarres voilà. À la Bruce Lee. Avec les...
Et quand on est parti aux Philippines, Fleury a fait un truc incroyable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus sortir d'argent de la France. À l'époque où il est parti avec tout l'argent du tournage pour payer aux Philippines, cousu dans son manteau. On arrive dans une petite île avec des magnifiques mers bleues, tout ça extraordinaire, des huttes, avec l'Américaine qui rentre dans la huttes, on entend un hurlement, il y avait des araignées comme ça, il n'y avait pas les huttes étaient ouvertes. Et des jeunes arrivent, ils nous appellent les Lapu-Lapu. Grandes coquilles avec des poissons dedans. Oh, putain, que ça va être bon, on va bouffer comme un truc. Ah, petit déjeuner, la poule à poule.
Dîner.
Déjeuner, la poule à poule. Dîner, la poule à poule. Vous, 15 jours, plus la poule. Ah, des trucs fabuleux. En plus, on tourne la scène du bateau où on vire notre Gwendoline dans l'eau. Américaine, trouille de tout ce qui est sale, etc. Elle voit l'eau avec des rats dedans, des trucs dégueulasses, pas question que je tourne. Donc on appelle d'urgence l'interprète qui nous cherche une fille qui ressemble de dos, qui sait nager. Oh, on voit quatre filles, on choisit une, on dit moteur. Brent arrive, prend le sosie et la jette dans l'eau. Moi j'ai coupé, meneur, on met la caméra, etc. On va faire ça, puis il y a un petit mien qui arrive. Je travaille. Je travaille. Traducteur, qu'est-ce qu'il veut dire? La fille est au fond de l'eau, elle ne sait pas nager. Oh. Robert, toute l'équipe, on plonge. On l'a retrouvée sous le bateau.
La vache.
Allez. Le cinéma n'est fait que de ça.
On sent que la deuxième partie est vraiment celle qui t'a motivé. Enfin, non pas que tout ce qui précède l'aventure et tout, mais les courses de chars, les décors, l'arène. On sent que c'est ça qui a déclenché ton envie de faire le film.
Alors, j'ai pris les meilleurs au monde. Il y avait Reiko qui a fait tous ces magnifiques maquillages, perruques et tout, le maquilleur, les coiffeurs, les costumes. C'était vraiment une création. Quand tu viens d'un club, tu as des photos de Louis XV, parce qu'il y a marqué qu'il fait un Louis XV. Là, tu as créé la course de chars. Bon, c'est bien qu'il y ait eu plein de films de femmes citées, etc. Comment ça s'appelle
Les Amazones,
tout ça. Mais nous, on a voulu faire. Et on voulait surtout, encore une fois, inventer tout ça. La course de chars, il faut entraîner les filles à courir avec des chars. Il faut inventer les chars. On s'est amusé comme des dingues. C'était un bonheur permanent de créativité.
Le film a bien marché?
Le film a été évidemment saboté par Paris France, qui a voulu lancer le film sans projection.
C'est une drôle d'idée.
Aucune projection presse.
C'est une drôle d'idée.
Les journalistes qui sont faits, Gwendoline égale Emmanuel, sûrement un film de cul de Juste Jacquin. C'est un film pour les adolescents. Donc les mamans ont dit, ah non, pas question d'avoir Gwendoline. Et on a marché, oui, on a marché à l'étranger, on a marché partout. On a eu le prix, on a été nommé en Italie pour le prix du film fantastique et d'aventure. Donc on a été, encore une fois, succès partout. Sauf en France, comme l'Amandine des Châtelets.
Comme Lady Châtelet.
Hein. Non, le dernier roman romantique, qui a été un flop énorme en France. Donc moi, désolé de ce film que j'adorais, je reçois un coup de téléphone des Canadiens qui me disent juste ton film est un succès. Je dis, arrête. On t'envoie un billet de première classe, tu viens demain. J'arrive à 11h du soir. Montréal, il m'emmène à la sortie du cinéma français, du cinéma de... La porte s'ouvre, c'est la fin du film, tout le monde était debout, en applaudissement, et record du cinéma français au Canada de tous les temps. Nul n'est prophète dans son pays.
Absolument.
Oh, ah, mais quelle invention, Darcy!
Je veux...
Méchant oiseau. Willard, ces filles vont se battre et mourir pour vous dans un combat sans règles. Vous aurez la meilleure. Voulez-vous me faire l'honneur de leur donner le départ?
C'est parti.
Nous arrivons un petit peu à la conclusion de cet échange et j'avais une double question qui était 7-8 films en une grosse dizaine d'années, est-ce que le cinéma a été une parenthèse dans ta carrière où tu as fait beaucoup d'autres choses, de la sculpture, de la photographie et tout, est-ce que c'était une parenthèse et pourquoi avoir arrêté de faire des films de cinéma?
Encore pas une grosse carrière de ma part. D'abord, je commençais à voir que le monde changeait. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de discuter face à face avec les gens, avec le producteur, avec les acteurs, etc. Le jour où les producteurs ont, par problèmes successifs, failli, tout ceci, cela, tous les cinémas sont passés télévision. Et d'avoir des rendez-vous où on attend 3 heures pour vendre un truc, un scénario auquel n'y croit pas, j'avais travaillé pendant 2 ans un scénario qui s'appelait Kai, qui était à 100% une histoire que j'avais écrite avec un copain, qui disait, c'est un film sur les enfants, c'était les Sassam Morail en enfant. Ah non, non, les films en costume, ça, les films d'enfants, jamais un film d'enfant marchera au prime time. J'avais 4 ans d'avance par rapport à tous les films d'enfants. Donc là, déjà ça, je perds 1 an de ma vie, beaucoup d'argent de ma part que j'avais investi, parce que j'avais trouvé les Américains emballés, mon scénario, les Hollandais emballés, à une seule condition d'avoir une production, une télévision française. Pendant 3 mois, pour avoir rendez-vous, pour entendre dire ce que je viens de dire, on ne croit pas en film, donc j'ai abandonné, j'avais marre. Deuxièmement, j'ai vécu de l'âge de 18 ans, après service militaire, jusqu'à l'âge de, oui, c'est ça, 80, 83, 85, seul. J'ai des petites amies comme tout le monde, des aventures. Pas d'enfants, pas d'amis. Pourquoi pas d'amis, c'est que t'es jamais là. Tu pars 6 mois, tu reviens, les copains rigolent, des choses que tu comprends pas parce que tu les as pas vécues. Donc, j'avais envie de Racine. Et on propose de refaire des films télévision. Et là-dessus, subitement, tout le monde me veut. Je deviens le metteur en scène de l'année de défi musicaire. J'ai dû faire 23 ou 24 films. Je gagnais beaucoup d'argent parce que, comme ils me voulaient, ils me payaient bien. À tel point, quand je dis aux pauvres jeunes photographes d'aujourd'hui, cinéastes, qu'il y a des clients qui me réservaient 6 mois à l'avance. Et je me suis pris un petit peu. Et puis, cette relation avec la télévision ne m'intéressait pas. À chaque fois qu'on me posait quelque chose, c'était pour revenir à l'érotisme, les trucs que je ne pouvais faire. Et puis, un peu ras-le-bol, j'ai envie de vivre une vie de respiration. J'ai tout vendu. Je suis parti à la campagne. Et pendant 17 ans, je suis resté à la campagne, où j'ai eu un enfant que j'ai pu élever tous les jours. Quand sans ça, ça aurait été comme les 3 cas de metteurs en scène, avec des enfants qui leur disent « tu n'as jamais été là ». Comment veux-tu être là quand tu es 6 mois dans le monde? Un long métrage, il faut que les gens sachent. Un long métrage, c'est rentrer en monastère. Pendant 2 ans, l'écriture, le montage. Jusqu'au jour, le mercredi à 2 heures où ton film sort, après 2 ans, et c'est un flop ou un succès. Je me suis rendu compte qu'après la sortie d'un film, tu es seul. Les 300 techniciens, ils sont partis sur l'autre fil, ils étaient toutes seules, plus de coups de télé, plus rien. J'ai dit, mais oh là, où je vais là? Donc, mes copines vont essayer de te trouver, alors en posant des défis, puis je tombais sur ma femme. On ne s'est plus quitté. Revenu à un truc formidable qui était la sculpture, qui était, faut pas oublier que j'étais aussi un sculpteur très connu à l'époque, dans les années 70, et je pouvais essayer dans une grande galerie qui s'appelle Stadler. J'ai dit, je suis con quand même. Quel métier formidable. Tu es le matin devant ta terre, devant ton bois, personne ne peut te dire, tu as préparé l'argent de ce qu'il faut faire, pas faire. Quelle liberté, comme plus ma femme était sculptrice. Vous avez travaillé toute seule dans son. Je me suis dit, qu'à raison. Revenons à la sculpture. Voilà.
Merci, juste. Merci pour tout.
Tiens, l'honorable Tao Tao fait du zèle maintenant. Tu n'as plus confiance en moi?
Il dit, bon, mais ça a bûché, là. Mais il m'en a pas arrêté, toi.
Hé, Nina. Tiens, attrape ça, ça ira plus vite.
Allez, les dents! Blesse! Pardon, il nous fait.
Bougez pas.
Beau travail. Vous êtes parfaite. Je vous engage à l'année.